France Inter.
Un jour de chute du gouvernement, le deuxième en moins d'un an, et vous êtes évidemment là où ça se passe, Fabienne, à l'Assemblée nationale pour le téléphone sonne.
Absolument, et dans la salle des pas perdus, on est parti.
France Inter, le 18-20, édition spéciale.
Et on va rappeler rapidement où nous en sommes. Maxence Cambrai, c'est avec vous qu'on va le faire avant notre premier invité qui vient d'arriver en chiffres. La surprise du vote de confiance, hein, on savait qu'il n'y en aurait pas. En revanche, sur les chiffres, un petit peu quand même.
364 votes pour le départ de François Bayrou et 194 seulement. Il pouvait espérer 210 voix dans son camp. Il n'en a que 194, ce qui veut dire, on le saura dans quelques minutes, que de nombreux députés LR, notamment du groupe de droite, n'ont pas soutenu François Bayrou dans ce vote.
Bonsoir Boris Vallot.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe PS à l'Assemblée. Est-ce que, disons-le franchement et comme ça, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est votre tour, vous, au PS maintenant?
Écoutez, je le crois. Si nous sommes dans cette situation, c'est parce que la politique qui a été conduite depuis 2017 est un échec. On a besoin d'un changement de cap. On a besoin d'entendre aussi le résultat qui est sorti des urnes il y a un an. Et je crois en effet que c'est le moment. On renverse un gouvernement, et quand on renverse un gouvernement, qu'on formule des propositions, on prend aussi la responsabilité de dire nous sommes prêts à exercer les responsabilités. Avec toutes ces contraintes, toutes ces difficultés, avec l'absence de majorité dans l'hémicycle, nous le savons, mais les Français sont dans l'attente d'un changement pour lequel ils ont voté et qu'il n'arrive jamais.
Leur attente, c'est surtout, il faut enfin que ça marche. Pourquoi ça marcherait avec vous plus qu'avec François Bayrou ou avec Michel Barnier?
Mais d'abord parce que, sur le fond, nous servons un changement de politique, un changement de cap. Nous nous tournons vers les Français qui ont le sentiment d'avoir été oubliés, d'avoir été parfois méprisés, brutalisés depuis 2017. Nous leur disons, à celles et ceux qui travaillent, nous allons non seulement vous épargner des efforts d'économie, mais nous allons soutenir votre pouvoir d'achat. Voilà pourquoi on a des propositions de baisse ciblée de la CSG sur les bas revenus. Nous disons aussi on a besoin dans ce pays, rongé par l'injustice, de justice fiscale. Et nous allons mettre à contribution celles et ceux qui le peuvent. Les très hauts patrimoines, songez qu'aujourd'hui, les 500 premières fortunes françaises, c'est 40% de la richesse nationale.
Est-ce que ça, Boris Vallot, c'est une ligne rouge? Est-ce que vous avez des lignes rouges, notamment les très hauts patrimoines et peut-être aussi le gel de la réforme des retraites?
Mais
est-ce que ce sont deux lignes rouges?
Je crois que nous devons, et que le bloc central, le président de la République doivent l'entendre, doivent le comprendre et doivent d'une certaine manière l'accepter, changer de cap, changer de politique. Vous savez, on n'est pas dans une crise de la dépense, même s'il faut faire des économies sans doute, et que l'usage des deniers publics est une chose sérieuse et importante, mais nous sommes dans une crise des recettes. Il manque chaque année 60 milliards parce que ça a été supprimé de recettes fiscales. Bah évidemment, ça manque à notre hôpital, ça manque à notre école, ça manque à notre redressement industriel, à la préparation de l'avenir, à la transition
Est-ce
écologique.
Est-ce que ça veut dire, Boris Vallot, si c'est pas vous, si le choix du président se porte sur un autre personnage politique, est-ce que pour vous c'est censure immédiate parce que vous décidez, comme vous l'avez dit, effectivement que c'est votre tour?
Mais est-ce que vous m'autorisez, ce soir, au moment où nous venons de renverser un Premier ministre qui est comptable de la politique qui a été menée depuis 8 ans, de dire c'est notre tour et d'espérer en effet d'attendre que ça le soit véritablement et de ne pas envisager une fois de plus une erreur et une errance de la part du président de la République.
Et Maxence. Boris Vallot, si c'est votre tour, quels sont les ministres qui sont avec vous dans votre gouvernement? Jusqu'où vous allez? Y a-t-il des ministres LR envisageables? Jusqu'où vous allez? Quelle est votre majorité? Sur quel socle vous allez vous baser?
Je crois que le changement de cap, la construction à l'Assemblée nationale de compromis, de majorité, texte par texte, parce qu'il n'y a pas de majorité, sauf une. Dans le pays, les Français qui souffrent et qui n'en peuvent plus. Dans l'hémicycle, celles et ceux qui ont été élus dans l'élan de Front républicain et qui ont pris l'engagement de ne rien céder à l'extrême droite.
Donc bien, ça veut dire qu'il y a potentiellement des ministres LFI dans votre gouvernement?
Écoutez, ça, vous savez, je crois qu'ils ont répondu à cette question d'eux-mêmes en disant, si c'est pas nous, c'est personne. Bon, donc, je veux dire, cette question est soldée. Pour vous répondre, je crois que la gauche et les écologistes sont légitimes à revendiquer l'exercice du pouvoir parce que nous sommes arrivés en tête il y a un an. Parce que nous proposons ce changement, nous appuyons sur une majorité qui existe dans le pays. Et en proposant aussi une autre méthode, celle dont le Premier ministre a été incapable, qui est de renoncer d'une certaine manière à ce 49-3, c'est-à-dire de faire le pari de parlementaires adultes, d'un parlementarisme, de discussions exigeantes, sur la base de ce que nous proposons. C'est-à-dire, je le dis, en effet, un changement de cap. Il va falloir camp présidentiel renoncer à des totems auxquels il a cru, mais qui sont vains et qui nous ont conduits là où nous en sommes.
Est-ce que vous attendez à être reçu rapidement? Comment est-ce que vous voulez que les choses se passent maintenant en termes aussi de rapidité? On sait que François Bayrou ira dès 8h du matin dans le bureau d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que ça aille très vite? Il faut que vous voyez très vite? Et il faut surtout que vous soyez capable, si encore une fois c'est vous, d'arriver avec une liste, si je puis dire, une vraie fiche qui dit voilà, ce sera ça notre gouvernement, ce sera ça les gens qui travaillent avec nous.
Mais si c'est nous, c'est nous voulons avoir l'assurance que nous pourrons gouverner. Et que le président de la République nous laissera gouverner. C'est important, de, si on y va, d'être capable de tenir la promesse qu'il y aura du changement. Il y aura du changement rapide. Alors vous me dites, qu'est-ce qu'on souhaite que fasse le président de la République? Je veux dire, j'ai arrêté de formuler des souhaits s'agissant du président de la République. Il est imprévisible. Il est imprévisible dans ses choix, dans ses décisions, dans sa gestion du temps. Bon, bah écoutez...
Et les discussions n'ont pas commencé?
Non.
Du tout?
Avec personne? Aucun émissaire?
Non, mais alors, vous savez, il y a toujours des gens qui vous passent un petit coup de fil. Qui sont d'abord mandatés par eux-mêmes. Bon, on discute. Mais non, il n'y a pas de discussion. Et c'est vrai que j'ai vu dans certains médias que moi et d'autres socialistes avions été contactés par l'Élysée. Je dois vous dire que pour ce qui me concerne, ça n'est pas le cas.
Vous avez entendu notamment Laurent Wauquiez pour LR dire « Nous, de principe, il n'y aura pas forcément de censure, donc on peut faire un accord de non-censure. » Est-ce que vous lui répondez « chiche » et aujourd'hui encore, après cet épisode à l'Assemblée nationale?
Mais moi, je dis que si nous gouvernons, il appartiendra à celles et ceux qui veulent un changement dans ce pays, qui tirent des conclusions des échecs de 8 ans de politique telle qu'elle a été conduite, eh bien, en effet, de nous laisser gouverner.
Merci beaucoup, merci Boris Vallaud. Merci de votre passage dans notre petit studio de l'Assemblée nationale. Stéphane Zumsteig, qui est évidemment resté avec nous, directeur du département politique et opinion de l'Ipsos. Sans surprise, évidemment, ce que dit Boris Vallaud. Mais la question, c'est à vous que j'ai envie de la poser au fond, celle qu'on lui posait tout à l'heure. Pensez-vous que les socialistes aujourd'hui, le PS, soient en position de faire mieux que les prédécesseurs, d'arriver à quelque chose auquel les prédécesseurs ne sont pas arrivés?
Mais quand vous écoutez ou observez les réactions assez virulentes, assez claires d'une partie de l'état-major des Républicains, vous pouvez en douter, parce que là encore, élargir ce socle commun, mais en le rétrécissant sur sa droite, arithmétiquement, l'équation reste tout aussi impossible. C'est ça le véritable problème. Moi, je vois plus dans la stratégie, finalement, ou dans la tactique du président de la République de parler au Parti Socialiste, d'essayer de parachever la destruction du nouveau Front Populaire, en fait. Puisque le fait d'accréditer l'idée selon laquelle il y aurait une certaine... Des dialogues, d'ailleurs, Boris Vallaud vient de le dire, il n'y en a pas. En tout cas, lui n'a pas été appelé par l'Élysée. Mais le fait de dire que le président de la République serait prêt à se tourner vers la gauche, en l'occurrence vers le Parti Socialiste, c'est aussi un moyen d'accélérer. On voit bien, quand on regarde les réactions de la France insoumise, d'accélérer ce qui a été la plus grande erreur du président de la République quand il annonce la dissolution. Il n'imaginait pas que le nouveau Front Populaire se créerait en quelques heures et que le surlendemain, il présenterait un programme et une répartition de candidatures unique. Donc moi, je le vois plus comme ça, parce que arithmétiquement, se priver des LR, si je crois ce que disent François-Xavier Bellamy et Bruno Retailleau, se priver des LR et récupérer le groupe socialiste, ça ne change rien à l'équation.
On va pouvoir poser la question au LR. Se priver des LR serait une erreur, nous dit Stéphane Zumsteig. Bonjour Vincent Jeanbrun.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes député LR donc du Val-de-Marne. D'abord, comment vous avez voté?
À moi, titre personnel, j'ai voté pour, sans enthousiasme, mais je considère que la stabilité du pays est essentielle et que je n'avais pas à m'allier avec ceux qui cherchent le chaos, la LFI comme le Rassemblement National.
Donc vous ne faites pas partie des 16 voix, si je puis dire, qui ont manqué? Est-ce que vous
Sinon
savez
pas
déjà
On avait une liberté au sein du groupe et chacun a pris sa liberté de vote. Le débat a été ouvert et voilà, ça me paraît normal qu'un député puisse voter en son âme et conscience.
On a entendu à la tribune Laurent Wauquiez dire les compromis avec des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes opinions sont possibles. Est-ce que ça dit accord de non-censure potentiellement avec le Parti Socialiste, ou est-ce que ça dit, y compris de la part de Laurent Wauquiez, moi je suis là, s'il faut, je suis là?
Les Républicains, depuis le premier jour, on a dit qu'on était prêts à participer donc pour faire en sorte que la France avance. Non, ce que ça dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'être tous les mêmes Playmobil pour être dans un même gouvernement et essayer de trouver des solutions pour la France. Donc on peut parler aux autres formations politiques du socle commun, par exemple. Ça, c'est sûr, et c'est ce qu'on dit depuis le départ. Le problème derrière, c'est pas Parti Socialiste ou pas Parti Socialiste, c'est quelles sont les idées qui sont défendues, quelles sont les idées qui sont portées. Le Parti Socialiste qu'on entend ici dans l'hémicycle, effectivement, et ben ça, ce sera sans sûr et ce ne sera pas avec nous, parce qu'effectivement, il propose de manière orthogonale une vision économique, une vision sociétale, donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En revanche, on doit pouvoir travailler mieux avec le socle commun, qui n'avait de commun jusqu'ici que le nom, des gouvernements qui étaient plutôt des castings que vraiment des accords programmatiques. Et pour le coup, ça a été dit par Laurent Wauquiez à la tribune tout à l'heure, c'est visiblement repris par Gabriel Attal qui propose au président de la République de nommer un négociateur. Je pense que c'est important qu'on puisse discuter de la vision pour la France, le dire clairement aux Français, et puis demain essayer de construire quelque chose.
On va revenir à cette histoire de négociateur. Un mot quand même, vous dites qu'il y a un certain nombre de lignes rouges dans ce qu'a proposé le Parti Socialiste, en tout cas ce que j'ai entendu. On avait entendu peu de temps avant Laurent Wauquiez dire qu'il n'y aura pas de censure de principe contre le Parti Socialiste, donc c'est quoi l'idée finalement?
Non, Laurent Wauquiez et notre groupe, depuis le lendemain de la dissolution, donc le 7 juillet 2024, on dit, nous, on n'est pas dans l'instabilité, on n'est pas des soldats du chaos, donc on fait en sorte d'essayer d'avancer. Donc jamais de censure dite automatique. On avait mis une ligne rouge, ceci dit, c'est sauf s'il y a du LFI dans le gouvernement, que ce soit des personnalités LFI, ou s'il y a les idées de la LFI qui sont représentées. Et donc, nous, l'objectif, c'est pas d'être dans la censure automatique. En revanche, si, parce que à l'époque, on parlait d'un Bernard Cazeneuve, si c'était un gouvernement d'union, on ne rendait pas les choses automatiques. Mais maintenant,
idée de la LFI, Monsieur Jeanbrun, par exemple, si on a l'équivalent d'une taxe Zuckerberg, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça c'est nul et non avenu? Donc c'est la ligne rouge. S'il y a un gel de la réforme des retraites, parce que ça aussi c'est sur la table, est-ce que c'est là aussi nul et non avenu, donc censure? Vos lignes rouges, elles disent quoi par rapport à celles qui ont déjà été posées par la gauche?
Ça en fait partie parce que nous, nos principes, ils sont simples. Au-delà même des lignes rouges.
Donc c'est oui.
Nous, on veut défendre la France qui travaille et celle qui a travaillé toute sa vie. Donc les défendre, c'est déjà faire en sorte qu'on arrête d'essayer de les taxer d'une manière ou non déguisée, faire en sorte de protéger nos retraités, et puis derrière, faire en sorte que dans notre pays, on arrête ce réflexe pavlovien des impôts, toujours plus d'impôts. Donc non, on ne veut pas d'augmentation d'impôts, on veut lutter contre l'assistanat et faire en sorte, effectivement, que la France qui travaille puisse travailler plus facilement. C'est quand même celles et ceux qui travaillent qui portent notre pays aujourd'hui, et c'est vers eux qu'il faut se tourner. Parce que, beaucoup le Premier ministre l'a bien dit, on ne crée pas assez de richesses dans notre pays.
Mais si donc, j'entends pas la non-censure avec le PS qui avait été annoncée. J'entends pas une non-censure.
Là, on repart pour un tour. Ce que vous nous décrivez, c'est on garde le même socle à peu près.
Ouais, moi, j'avoue que je ne vois pas la configuration dans laquelle le président de la République nommerait un gouvernement socialiste qui puisse trouver la moindre majorité dans cette Assemblée. Maintenant, nommer un négociateur et qu'il puisse y avoir différentes personnalités, le ministre de l'économie ne vient pas de la droite aujourd'hui, pour autant on a pu avoir dans un même gouvernement Éric Lambert et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Donc c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas dans la censure réflexe idiot et stupide. Pour autant, il faut que la feuille de route soit claire et qu'elle tienne la route.
C'est ce qui a manqué, le contrat de gouvernement dès le départ.
Mais oui, mais bien sûr. Et d'ailleurs,
mais du coup, il vous faut un négociateur pour le faire désormais. Tout seul, ça marche pas. Vous savez, vous n'y arrivez pas en fait.
Non, c'est pas ça.
Là,
dans le mot négociateur, c'est ce qu'a proposé Gabriel Attal. La particularité, c'est de dire est-ce que vous pouvez nommer quelqu'un qui d'entrée de jeu ne sera pas Premier ministre. Donc finalement, quelqu'un d'assez neutre. Je trouve l'idée plutôt pertinente, assez technique, en disant bah voilà, quelqu'un qui va permettre un calendrier de réunion, qui va nous permettre d'avancer. Moi, je trouve ça plutôt pertinent. Moi, je fais partie des gens
qui
sont constructifs.
Mais qui doit avoir une couleur politique, Monsieur Jeanbrun, ou pas?
Bah, qui en tout cas.
Dès lors qu'il y a une couleur, le jeu forcément.
Il va avec un esprit de neutralité. Après, tout le monde a une opinion politique.
C'est un Jean-Pierre Raffarin, c'est ça?
Même vous, journaliste, vous essayez d'être le plus neutre possible, mais vous avez vos opinions politiques. Bon, on doit pouvoir être neutre le temps de ce travail-là. En tout cas, il faut qu'on se parle, il faut qu'il y ait une vision programmatique, et ensuite, les Français tranchent.
Et donc, si je vous comprends bien, il n'y a pas d'urgence à nommer un Premier ministre demain soir, et pourquoi pas 6 semaines de discussion, parce que de toute façon, on n'y arrivera à rien tant qu'on ne se sera pas mis autour de la table?
En fait, j'ai envie de vous répondre, bien sûr qu'il y a une urgence, et c'est pour ça que j'ai voté pour tout à l'heure, c'est parce que moi je crois à la stabilité pour notre pays. Donc il y a une urgence à envoyer un signal, et notamment à l'international, et notamment aux agences de notation, qu'il faut absolument qu'il y ait un capitaine dans le bateau. Mais d'un autre côté, l'idéal, ce serait qu'on ait le plus de temps possible pour discuter et s'entendre. Ceci dit, les Républicains, on a déjà mis sur la table un certain nombre de propositions, notamment sur les sujets économiques, depuis juillet dernier, et déjà il y a plus d'un an après la dissolution. Donc il y a déjà beaucoup de matière. Je pense que le parti de Gabriel Attal, par exemple, a travaillé depuis un petit moment aussi. Donc ça peut aussi, d'une certaine façon, aller assez vite. Peut-être qu'il nous faut quelques jours plutôt que quelques mois.
Et aussi peut-être, pardon Monsieur Jeanbrun, pour vous remettre d'aplomb, si je puis dire, vous, les LR, on a entendu beaucoup de voix qui étaient discordantes ces derniers temps. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, je cherchais les prénoms. Bruno Retailleau n'était pas sur la même ligne, mais Valérie Pécresse sur une autre ligne aussi, Nicolas Sarkozy sur une ligne encore différente, Xavier Bertrand sur une ligne un peu différente également. À quel moment vous allez vous retrouver, vous, pour être pour parler d'une seule voix? Ou est-ce que non, finalement?
Écoutez, déjà, je peux vous dire qu'il n'y a pas de discordance au sein de notre groupe à l'Assemblée nationale. Il y a eu des différences de vote et de point de vue, mais tout ça dans un débat et une entente plus que cordiale. Et puis après, à l'échelle du parti, c'est la responsabilité de notre président Bruno Retailleau de faire en sorte qu'effectivement il y ait peut-être plus de cohérence et que les tirs soient plus groupés. C'est pour ça aussi qu'on a un bureau politique demain, je crois, à 18h30. J'imagine qu'on en discutera tous ensemble.
Tout à fait, un comité stratégique demain matin.
Exactement.
Voilà. Donc, je vous lâche, Vincent Jeanbrun, il y a des gens qui vous tirent par la manche. Merci beaucoup, en tout cas,
merci
d'être passé chez nous dans le studio de France Inter, ici dans la salle des pas perdus, donc de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, je vous rends à vos activités. Voilà, on fait comme à la maison, je vois que le micro me passe devant et c'est comme ça et ça marche aussi très bien de cette manière-là. Stéphane Zumsteg, j'entendais ce qu'on disait tout à l'heure, on y viendra avec notre prochain invité, cette idée d'un est-ce qu'on appelle ça un médiateur, est-ce qu'on appelle ça une personne au milieu qui aiderait au fond ces politiques à se mettre d'accord. Je voudrais savoir comment vous le voyez, vous, ça, après un an et des poussières, à avoir tenté des choses qui ont finalement échoué.
J'ai envie de vous parler des pays voisins de la France. Comment ça se passe dans les pays comme l'Allemagne, comme l'Espagne? Eh bien, on ne parle pas d'incarnation, on ne choisit pas dans un premier temps un Premier ministre, et donc un Premier ministre forcément politisé puisqu'il appartient à une formation politique. On se met d'accord sur un projet de gouvernement. Vous voyez tout à l'heure Vincent Jeanbrun qui regrettait, qui déplorait le fait qu'il n'y ait pas eu de pacte de gouvernement. C'est comme ça que ça doit fonctionner normalement. Que le Bloc central s'allie avec les LR ou avec le PS ou avec les deux, avant tout, l'objectif n'est pas dans ces autres pays de nommer immédiatement un Premier ministre ou un chancelier, c'est de se mettre d'accord sur un pacte ou sur des fondamentaux à minima, sur des dénominateurs communs, et en fait les partis se mettent d'accord. Et ensuite, une fois qu'un accord est signé, ça prend du temps, c'est fait dans le secret souvent, c'est pas très médiatisé. Ensuite, on nomme un Premier ministre. C'est comme ça que ça fonctionne ailleurs. Ça renvoie à ce qui se passe depuis quelques mois ou depuis quelques années en France, renvoie à cette carence qu'il y a en France dans la classe politique, une absence totale de sens de la coalition. Il n'y a pas de coalition aujourd'hui. Quand vous êtes dans un parti politique, l'objectif, votre principal ennemi, c'est le parti juste à côté du vôtre qui vous ressemble. Il faut le tuer pour occuper plus d'espace. C'est bien ça le problème. Voilà. Ça n'est pas le cas en Allemagne, en Espagne ou aux Pays-Bas.
Et qu'on n'a pas encore réussi à réinventer avant d'accueillir Pierre Cazeneuve, notre prochain invité. Un mot, Julien Nenni, parce que vous avez des infos, notamment un communiqué de l'Élysée.
Oui, qui est tombé il y a quelques instants. Je vais vous lire in extenso. Ça tient en cinq lignes. Le président de la République prend acte du résultat du vote des députés au terme de l'article 49.1 de la Constitution. Il recevra demain le Premier ministre François Bayrou pour accepter la démission de son gouvernement. D'après nos informations, ça se passera à 8h à l'Elysée. Dernière phrase du communiqué, le président de la République nommera un nouveau Premier ministre, je cite, dans les tout prochains jours. Ça veut dire a priori cette semaine, ce qui correspond aux informations qu'on avait à tous ses interlocuteurs ces derniers jours. Emmanuel Macron disait qu'il voulait aller vite, peut-être avant la journée du 10 avec les mouvements sociaux qui arrivent, ou avant l'agence Fitch qui vendredi doit peut-être annoncer la dégradation de la note de la France. En tout cas, le président veut aller vite, c'est confirmé.
Et puis avant d'autres rendez-vous aussi qui sont des rendez-vous internationaux mais qui pèsent aussi en ce moment peut-être sur les épaules du président français et l'image de la France qui serait dans un état de brouillon, si je puis dire, n'est pas forcément une bonne image vis-à-vis de nos partenaires internationaux. Bonsoir Pierre Cazeneuve.
Bonsoir.
Vous êtes le vice-président du groupe Ensemble pour la République. Un mot sur ce que dit le président de la République dans les prochains jours, allez vite, c'est aussi votre souhait. Il faut aller, votre souhait, pardon, il faut aller vite.
Oui, évidemment, parce qu'on sait que chaque jour, son gouvernement, son Premier ministre rajoute un peu plus d'instabilité, d'incertitude, et donc effectivement, le plus rapidement on a un nouveau gouvernement, le plus rapidement on peut entamer ce processus de discussion, de négociation pour justement affronter ce compte à rebours hein, pour le budget, et que ce compte à rebours du 31 décembre qui est aujourd'hui déclenché.
Et donc on oublie l'hypothèse d'un préfigurateur, de quelqu'un qui réunirait tout le monde autour de la table de manière un peu technique pour établir un projet de gouvernement. Un Premier ministre
suggéré
semaine.
Par Gabriel Attal, on en parlait à l'instant, donc est-ce qu'on a le temps pour ça?
Oui, alors est-ce que ça sera ce préfigurateur-là? Est-ce que ça sera directement le Premier ministre qui occupera ce rôle? Encore une fois, je pense qu'il faut un peu réinventer la méthode. On voit bien que le format où on pose, je pense que ce que voulait dire aussi le président Gabriel Attal, c'est-à-dire à partir du moment où on ne peut plus fonctionner où on pose un budget et ensuite les oppositions s'opposent et finalement on n'arrive pas à créer ce compromis. Alors c'est toujours un peu j'aime pas trop cette novalangue du management, des processus d'itération, etc. Mais effectivement, il faut peut-être à un moment donné tout petit peu changer d'approche, se réunir avant pour essayer voilà, en tout cas sur les très grandes lignes budgétaires, se mettre d'accord et ensuite avoir un processus un peu plus dans la co-création et dans le partage plutôt que vraiment d'avoir des oppositions qui vont s'exprimer pour ou contre une liste de courses. Voilà, ça on sait que ça sera forcément stérile. Donc il faut à mon avis changer un peu d'approche et c'est aussi ça la démocratie dans un contexte particulièrement compliqué, il faut se réinventer.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu au socle commun, au fond, les grands brûlés de cet épisode-là? Vous ne saviez pas que François Bayrou voulait poser la question de confiance, il ne vous l'a pas dit exactement, d'ailleurs, comme le président de la République ne vous avait pas dit en amont qu'il voulait dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est vous, en fait, qui faites les frais de cette difficulté en ce moment?
Nous, on est déjà tous les députés de notre ancienne majorité, on est à la disposition de nos circonscriptions, de nos électeurs. On porte ce mandat-là. Et moi, j'étais encore à Rueil-Malmaison tout le week-end lors du forum des associations. Les électeurs, les Français, ils nous disent on veut de la stabilité. Donc nous, notre rôle avant tout, c'est d'assurer cette stabilité. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce vote unanime sur la confiance. Est-ce qu'on est les grands brûlés? Je crois pas. Effectivement, je pense que c'est toute la classe politique qui aujourd'hui en pâtit. Je le dis vraiment sans rigoler, mais je suis moi-même dégoûté de la politique, moi-même dégoûté de la classe politique, quand bien même j'y appartiens. Je me suis engagé sur un jeune député, j'ai 30 ans, je me suis engagé il y a à peine 3 ans, c'était pas forcément pour faire ça, pour voir des gouvernements chuter, parce que tout ça, ça se fait au détriment du fond, au détriment de textes qui doivent passer pour aujourd'hui projeter la France dans le monde de demain. Donc je comprends parfaitement cette lassitude, et effectivement oui, ça nous abîme et ça alimente évidemment le discours des extrêmes, que ce soit d'extrême gauche comme de l'extrême droite, dont le but est de dire, voilà, tout est caché, tout est gâché, il faut absolument maintenant une révolution ou absolument un pouvoir radical très... quasi-fasciste pour certains. Donc voilà, oui, on en pâtit parce qu'on perd en crédibilité et donc c'est extrêmement important qu'on retrouve maintenant une forme de stabilité.
Les gens qui vous parlent, quand vous retournez dans votre circonscription, vous dites je suis au fond comme eux dégoûté de la politique. Est-ce qu'ils vous disent aussi la représentativité de l'Assemblée nationale où vous êtes n'est plus la représentativité de ce que nous sommes, nous les citoyens de ce pays? Regardez, dans 2 jours il va y avoir le 10 mercredi, il va y avoir un mouvement social, on ne sait pas ce qu'il deviendra, mais il dit ça aussi peut-être, monsieur Cazeneuve, il dit je ne me sens pas représenté. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là, là, le jour qu'on a fait tomber un gouvernement?
Pour le coup, ça, je crois qu'on peut pas vraiment le dire, parce qu'on a eu des élections il y a un an, on a une assemblée qui malheureusement ou heureusement ressemble à la France, c'est-à-dire qu'elle est très divisée, avec des avis qui sont parfois très, très clivants, très divergents.
Mais donc, les gouvernements qui sortent de l'Assemblée ne ressemblent pas forcément au pays, c'est plutôt ça qu'ils vous disent?
Oui, ils nous disent ça, mais parce qu'encore une fois, il n'y a pas de majorité absolue. Et donc, on essaye de construire parfois des choses qui, il y a 10 ans, c'était quasiment impossible de se dire que la droite et le centre puissent parler. Et là, peut-être que la prochaine étape, c'est d'aller même d'avoir un accord ou un pacte avec le Parti Socialiste. Donc, c'est aussi des choses qui sont inventées, et ça peut paraître un peu compliqué. Mais aujourd'hui, si vous regardez stricto sensu, vous avez bien moins de 200 députés de l'extrême droite. Donc de toute façon, ça ne marche pas et on n'aurait pas été plus représentés si on avait un gouvernement d'extrême droite aujourd'hui. Et de la même manière avec le Nouveau Front Populaire ou la France Insoumise. Donc il n'y a pas de majorité absolue dans ce pays.
Quand vous entendez les socialistes dire c'est notre tour maintenant, après tout, est-ce que vous dites oui, en effet, pourquoi pas, en fait, alors quitte à en être ou ne pas en être? Mais en effet, c'est le tour des socialistes d'avoir ce poste de Premier ministre?
Très sincèrement, je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui tient, la seule chose d'un peu près stable dans cette assemblée très morcelée, c'est ce bloc à 210-215 députés formé par le socle commun. C'est ça aujourd'hui notre... si vous voulez, c'est un peu le dernier bloc de stabilité qui existe. Les socialistes, ils sont 62 députés. Aujourd'hui, la France Insoumise le dit, qu'ils n'ont pas de mots assez durs pour les qualifier, ils les insultent, les écologistes c'est pareil, les communistes on voit pas comment ça peut marcher. Donc finalement, les socialistes ils sont un peu isolés aussi dans cette assemblée nationale. Je pense pas qu'ils ont la possibilité de pouvoir réclamer matière à 62. Par contre, vrai qu'on doit trouver un compromis, nous, et faire un effort supplémentaire dans le dialogue qu'on doit avoir avec eux. La solution, elle est arithmétique. Il n'y a aucune autre solution que d'avoir un gouvernement issu du socle commun avec un accord du Parti Socialiste, et ça doit passer par des compromis. Et un compromis, encore une fois, on doit se faire mal. Un compromis, c'est quand à la fin, personne n'est content. Et donc, il faudra accepter forcément d'être mécontent, parce que paradoxalement, je pense que c'est ce que les Français attendent.
Merci beaucoup, Pierre Cazeneuve. Merci d'être passé dans le studio de France Inter, ici, dans la salle des papiers. perdu de l'Assemblée nationale. Est-ce que je me tourne tout de suite vers notre prochain invité, parce que les places sont chères. On va le faire comme à la maison, je vais vous mettre le micro sur la tête. Voilà, est-ce que vous y êtes? Eh bien écoutez, c'est parfait, Thierry Ménager. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes...
C'est Thomas Ménager.
Thomas, excusez-moi. Vous êtes,
il y a plutôt l'âge d'un Thomas que d'un Thierry. Non, pardon.
Allez savoir. Vous êtes député...
Pas l'âge d'un boomer.
Ouais. C'est le sujet. Voilà, vous êtes député Rassemblement National et vous êtes du Loiret. Merci d'être avec nous. Vous n'avez jamais caché au RN que ce que vous vouliez, vous, c'était la dissolution. On l'a encore entendu avec Marine Le Pen cet après-midi. Je voudrais qu'on clarifie les choses. Est-ce que ça veut dire que si d'aventure... au bout de discussion, on appelait un Premier ministre issu du Rassemblement National, ce serait non, de toute façon, pour clarifier les choses.
Ah oui, on a toujours été très clair. Jordan Bardella ne veut pas ajouter Premier ministre à sa carte de visite et avoir la voiture avec chauffeur et tout ce qui va avec, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de majorité, en fait. Quel que sera le Premier ministre choisi demain par Emmanuel Macron s'il fait ce choix, personne n'arrivera à réformer le pays, personne n'arrivera à faire avancer notre pays, compte tenu de ces trois blocs que nous regrettons, que nous avons déjà expliqué, qui est à l'origine notamment du pseudo-fonds républicain qui a empêché que le Rassemblement national ait une majorité. Et donc c'est pour cette raison que nous, on ne cherche pas à avoir le poste pour le poste et qu'on appelle à une dissolution pour qu'il y ait une clarification, une majorité, j'ai envie de dire une majorité quelle qu'elle soit, mais qu'il y ait une majorité qui peut travailler et réformer le pays.
Mais le président de la République vient de vous répondre, vous avez peut-être vu le communiqué de l'Élysée qui est tombé il y a quelques minutes, il nommera un Premier ministre dans les tout prochains jours. Ce communiqué signifie qu'il n'y aura pas de dissolution, c'est l'expression du président après la chute de François Bayrou. Et donc, votre hypothèse d'une dissolution pour tout renverser n'arrivera pas. C'est le socle commun, sans doute, qui sera la future base du futur gouvernement.
Bah, c'est le choix du président de la République, c'est son rôle, les institutions veulent cela, il n'y a aucun problème. Nous, on continuera, Marine Le Pen l'a dit, à être dans un esprit constructif. Le problème que nous avons eu avec M. Bayrou, c'est que Marine Le Pen lui a écrit au mois de juillet pour dire « il y a un certain nombre de problèmes dans votre budget, nous on est ouverts à la discussion » et François Bayrou a refusé, mais ça c'est toutes les oppositions qui pourraient vous le confirmer, de débattre, d'échanger sur le budget. Donc il y aura un nouveau Premier ministre. On a peu d'espoir que ça tienne parce que je vous dis, ces trois blocs empêcheront de manière définitive à ce qu'il y ait un pays qui puisse avancer et se réformer. Mais nous, on fera un contre-budget, on ira discuter avec ce nouveau Premier ministre, sauf si vraiment il cherche à continuer dans la droite ligne de François Bayrou et d'Emmanuel Macron.
Est-ce qu'un accord de non-censure avec le RN est possible, quel que soit le nom, l'identité de ce Premier ministre?
Alors, on a toujours dit que nous n'acceptions pas des Premiers ministres qui ne respectaient pas nos électeurs, qui ne respectaient pas, en fait, donc, les députés du Rassemblement national qui ont été élus. Si c'est par exemple quelqu'un comme Xavier Bertrand qui avait dit il y a quelques années qu'il faut casser la mâchoire du Rassemblement National et qui insulte les 12 millions de Français qui votent pour nous.
Voilà, le cas Xavier Bertrand qui est aussi un vrai casus belli, notamment avec Marine Le Pen. Disons les choses clairement, si c'est Olivier Faure par exemple, qu'est-ce que vous faites vous au Rassemblement National?
Non, mais après, dans tous les cas, on l'a toujours dit, un Premier ministre issu de la gauche, de l'extrême gauche, issu du Nouveau Front Populaire, qui veut en plus souvent, pour la plupart du temps, et le disent, appliquer le programme du Nouveau Front Populaire, ça sera un stop direct.
Après, donc c'est un autre censure directe
pour un Premier ministre de gauche, après on échangera. Si c'est un Premier ministre de gauche qui dit on va reprendre des idées de partout parce qu'on va essayer d'avancer, on va écouter le Rassemblement National, on va reprendre nos mesures, je pourrais peut-être être démenti dans quelques temps.
Alors, mais peu de chance qu'il reprenne vos mesures, Monsieur Ménager. Mais voilà, si par exemple un Premier ministre de gauche dit gel de la réforme des retraites, puisque ça faisait partie de la plateforme, si ce Premier ministre dit, là aussi c'est la plateforme et on en reparle parce que ce sont vraiment les lignes rouges, une taxe pour les plus hauts salaires, pour pouvoir avoir une égalité de traitement, si je puis dire, dans le cadre des économies qu'il faut faire, est-ce que au fond vous dites pourquoi pas, parce que c'est assez proche au fond de ce que vous dites aussi.
Oui, il y a des mesures qui peuvent être en commun. On a toujours été nous dans une logique constructive en votant des mesures de partout, en étant dans un esprit non sectaire. Après, aujourd'hui, faut être clair, Monsieur Faure, le PS n'ont pas rompu avec la France insoumise. Donc il y a un certain nombre de valeurs qui sont à l'opposé de ce que défend le Rassemblement National sur des sujets sur le régalien, sur les sujets qui sont liés à la laïcité, qui sont liés aussi à la relation qu'on peut avoir vis-à-vis de la lutte contre l'antisémitisme dans nos pays. Donc je ne peux pas, on ne peut pas dire jamais. S'il y a un Premier ministre socialiste qui dit on rompt définitivement, on exclut la France soumise, on exclut définitivement de faire des accords, on les combat sur un certain nombre de choses et il y a des mesures qui sont proches des nôtres, on pourrait peut-être changer de point de vue, mais vraisemblablement ce n'est pas à l'ordre du jour parce qu'on voit bien que le PS est toujours à la botte, à la solde de la France Insoumise.
Donc je vous entends, ça veut dire que ce qui serait admissible et qu'on ne censure pas dans l'immédiat au Rassemblement National, c'est au fond un peu la même chose qu'on vient de quitter, c'est-à-dire un Premier ministre du socle commun à nouveau à la tête du gouvernement.
Vraisemblablement, c'est aujourd'hui malgré tout le plus gros bloc qui arrive à quand même à constituer, à éviter globalement une censure. Mais si c'est pour avoir un Premier ministre qui est dans la continuité, vraisemblablement les mêmes causes produiront les mêmes effets. Au-delà du casting, la vraie question ce soir, c'est de savoir, peu importe qui sera nommé, s'il acceptera de dire « je romps totalement avec le macronisme, je refuse les augmentations d'impôts, je fais des économies structurelles, je m'attaque au coût de l'immigration et je prends des réformes très claires en matière de sécurité, de santé, les mesures que les Français... »
Pour être clair, vous nous avez dit Xavier Bertrand, c'est non, Sébastien Lecornu.
Non mais je ne ferai pas le casting ce soir. Clairement, je vous dis, on attendra de voir des noms.
Ça veut dire que c'est possible.
À différence de M. Xavier Bertrand, il n'a jamais été outrancier, violent à l'égard de nos électeurs. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas accepter un Premier ministre qui va cracher au visage des députés, des parlementaires élus ici et qui, en plus, ont derrière eux des millions de Français. Après, il y a d'autres profils qui sont plus respectueux, mais tout dépendra de la ligne politique, de la vision qu'il souhaite mettre en place.
Voilà, il faut que je vous rende à quelqu'un, je ne sais qui, mais il faut que je vous rende immédiatement, Thomas Ménager. Merci beaucoup.
Merci à vous,
d'avoir été avec nous dans ce studio de France Inter, donc dans la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale. C'est fou parce que Stéphane Zumsteck, quand on entend le RN, mais au fond, quand on entend LR aussi, au fond, à l'exception des socialistes qui pensent que c'est leur moment, on a l'impression, les gens qui nous écoutent, doivent se dire, on va se retrouver avec exactement ce qu'on vient de quitter. Et ce qu'on a d'ailleurs depuis la dissolution, depuis juillet dernier.
Oui, alors pas forcément, parce qu'on parle beaucoup là aujourd'hui de la fin du bail du Premier ministre François Bayrou, mais le plus important, c'est que c'est la fin de ce projet d'effort budgétaire de 44 milliards. Je reviens à l'arithmétique. Qu'est-ce qu'il faudrait, c'est un peu facile de le dire comme ça, pour s'assurer une stabilité pour les mois à venir, imaginons jusqu'à la prochaine élection présidentielle. C'est-à-dire que les LR et les socialistes soient... participent, soit affichent leur neutralité à l'égard d'un gouvernement. C'est l'une des possibilités aussi. Arithmétiquement, il faut qu'il y ait les deux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si c'est le PS qui remplace les LR, ça ne change rien. Ça ne sert à rien. Vous auriez un gouvernement de gauche, mais qui serait... Alors, ça servirait pas.
Soumis
à LR. Donc, ce qu'il faut, c'est ça. Et je reviens là-dessus. Ce projet de budget à 44 milliards, c'est fini. Qu'est-ce qui empêcherait, c'est facile ce que je dis, évidemment. Qu'est-ce qui empêcherait un nouveau Premier ministre, peut-être un peu plus consensuel, dont l'image serait moins abîmée auprès de l'opinion, mais surtout auprès de la classe politique et de la représentation parlementaire. Parce que quand on voit la virulence des réponses des présidents de groupe aujourd'hui, on voit bien qu'il y avait aujourd'hui, ici à l'Assemblée nationale, depuis quelques mois, un problème avec François Bayrou et la représentation nationale. Qu'est-ce qui les empêcherait de faire un projet moins ambitieux ou moins injuste, selon ce que l'on en pense, et qui pourrait acheter à minima la neutralité d'une des deux forces et la participation de l'autre? Sur le papier, c'est possible.
Écoutez ce que nous dit un auditeur qui nous envoie ce message et qui est finalement assez conforme, à la fois en partie à ce que vous dites, mais à ce qu'on entend beaucoup en fait de la part de nos auditeurs. Entendez-vous trouver un moyen, parce qu'on ne va pas à nouveau jouer au mistigris en même temps que le Premier ministre. Pourquoi est-il impossible pour les politiques français de mettre leur ego de côté? Les élections présidentielles et donc législatives sont dans un an et demi. Ne serait-il pas possible de gouverner pendant ce temps-là sans prendre de grandes décisions? Est-ce qu'au fond, ramener le budget de ces 44 milliards d'économies à 20, est-ce que c'est aussi ne pas prendre de décisions irritantes? Est-ce que c'est ça que ça veut dire?
C'est aussi ce que les partis politiques ne prennent pas de décision, justement parce qu'il y a 2027 en ligne de mire. C'est bien ça. C'est, tout le monde a les yeux, l'attention focalisée. Il y a les écuries présidentielles qui sont quasiment déjà en place et des partis politiques qui ne jouent que tactique avec ces fameuses lignes rouges de l'opposition, mais aussi la ligne rouge du bloc central. L'intransigeance, elle est à tous les niveaux, dans tous les partis, à tous les niveaux de l'appareil d'État, notamment avec le couple exécutif dont le Premier ministre va sortir aujourd'hui. C'est ça, les gens ne veulent pas se parler et on a l'impression, et c'est toujours le problème en France, si vous faites des concessions, tout de suite on parle de compromission. Excusez-moi, c'est pas tout à fait la même signification. Et c'est ça le problème.
Ce que nous dit notre auditeur, moi je l'ai entendu ce midi dans la bouche d'une ministre, qui est donc maintenant démissionnaire, qui nous a dit, maintenant c'est 18 mois sans grand projet. On va juste essayer de stabiliser la dette. Ça sera le seul mandat de ce futur gouvernement. Ça ne pourra pas aller au-delà.
C'était le sens de ma question. Est-ce que ce prochain Premier ministre qui arrivera dans les jours à venir, nous dit Emmanuel Macron, c'est le dernier, d'une certaine façon, avant que là, on puisse dire effectivement qu'on est dans une vraie crise politique et que la dissolution devienne le seul moyen de sortir de la paralysie. Est-ce que c'est le dernier essai, d'une certaine
façon ? La 5e République est déjà bien abîmée. En effet, ça sera le 7e Premier ministre en 8 ans pour Emmanuel Macron. On n'imagine pas une chute en décembre sans conséquences institutionnelles fortes. Donc oui, Emmanuel Macron a en tête quelqu'un qui puisse tenir 18 mois, qui puisse essayer de le préserver, de le protéger. Et la campagne présidentielle démarrera dans un an. Et à ce moment-là, on ne parlera même plus du budget 2027. Il sera un peu fictif. Mais donc, aujourd'hui, dans le gouvernement, beaucoup sont optimistes en se disant, c'est bon, la dette est en haut de la pile. Donc, les socialistes vont réussir, on va trouver un accord. Ça sera peut-être 30 milliards. Mais 30 milliards, c'est déjà pas mal. On enverra un signal au marché à Bruxelles.
Mais au fond,
et ensuite, eh ben, on continuera, bon an, mal an, à essayer d'avancer avec cette Assemblée.
Je vous entends, quel que soit, au fond, le Premier ministre, à partir du moment où on passe de 44 à 20 ou à 21, on considérera ça comme une victoire. On en est là quand même au moment où on se parle, non ?
Oui, les deux jours fériés, c'est fini.
Par exemple,
c'est le symbole qui disparaît avec François Bayrou, je le pense. Et à Bercy, Éric Lombard, ministre de l'Économie, est déjà en train de réfléchir avec la liste de courses des LR, la liste de courses socialistes, il a tout sur la table et puis il voit quel curseur. Et là, Gabriel Attal, maintenant dans une interview au Parisien qui va être publiée demain matin, le président doit montrer qu'il est prêt à accepter de partager le pouvoir. Partager le pouvoir, c'est ça. C'est symboliquement, je vous donne ça, je vous donne une taxe Zucman modifiée.
Ça veut dire qu'un certain nombre des totems d'Emmanuel Macron sur lesquels il ne voulait pas revenir jusqu'à présent, il va devoir en lâcher.
On l'a un peu entendu dans la bouche de Pierre Cazeneuve tout à l'heure.
Mais ça veut dire que c'est lequel qu'il lâche Emmanuel Macron ? La réforme de retraite, par exemple, ça semble pour le coup le très très grand
coûteux,
totem, voilà, très,
très
coûteux.
Celui-là.
Et puis surtout, celui qui est le plus symbolique.
Mais symboliquement, politiquement, voilà. c'est une renonciation.
C'est plus facile de renoncer au totem des impôts sur les plus riches, par exemple. Oui. Enfin, on se souvient quand même que c'est lui qui a enlevé la taxe sur les plus riches dès son arrivée.
Oui, mais il y avait déjà dans le budget de François Bayrou présenté 4 à 5 milliards qu'il allait récupérer sur les hauts patrimoines et les hauts revenus. Donc cette enveloppe existait déjà, elle n'a pas étalement été mise en valeur par François Bayrou lors de sa présentation, mais évidemment qu'il y a un consensus quand même en ce moment pour dire, bon, il faudra un symbole fiscal, et ce symbole fiscal, il est déjà en train d'être travaillé à Bercy.
Désormais, nous dit un auditeur, on attend la proportionnelle, on attend aussi, nous dit-il, la 6e République, mais la question de la proportionnelle, elle tient, Stéphane Zumsteig. Si, encore une fois, ce troisième Premier ministre depuis la dissolution échoue, est-ce qu'à un moment, c'est typiquement le genre de choses qu'il faudra de toute façon mettre à un moment sur la table ?
La question qui se pose, c'est est-ce que la proportionnelle changerait les choses ? À une époque, on pouvait le dire oui, mais aujourd'hui, avec la tripartition de la vie politique, même quatre forces, on sépare le bloc macroniste, ce qu'il en reste, et les LR, c'est pas évident. C'est pas évident, ça ne donnerait pas forcément ce qu'on entend, le pouvoir au Rassemblement National.
Ce que ça change, c'est que les accords se font une fois l'élection passée et pas avant l'élection. Si bien qu'on est souvent hors proportionnel, prisonnier des accords qu'on a passés, c'est ce qui se passe avec le nouveau Front Populaire. Donc on se libère de cette prison-là.
Et vous avez raison, et d'ailleurs, aussi, ce qui change avec la proportionnelle, c'est que vous respectez davantage un certain nombre de partis politiques qui sont proches des vôtres, parce que vous savez que de toute façon, à un moment donné, il faudra s'entendre après les résultats pour former une coalition et s'entendre. Maintenant, j'entends cette idée de référendum sur la proportionnelle. On sait très bien, les mesures d'opinion l'ont montré, une majorité des Français y adhèrent, plus par principe, parce que proportionnelle, ça veut dire justice, quelque part, équité, sans rentrer dans le détail. Évidemment, je ne reviens pas sur le fait qu'il y a plein de types de proportionnelle, mais quand on voit l'impopularité aujourd'hui du président de la République, moi, je n'exclurais pas, comme ça, mais là, on parle un peu dans le vide, évidemment, que son impopularité étant à un tel niveau que des gens voteraient, iraient se mobiliser pour voter contre Emmanuel Macron, alors même que la question porterait, non pas sur le président de la République, mais sur la proportionnelle.
Je vous rejoins. C'est vrai qu'elle circule, cette rumeur d'un référendum sur la proportionnelle lancé par Emmanuel Macron. On sait qu'il en parle quasiment dans tous ses voeux de cette envie de retourner au peuple avec ce scrutin pour ou contre. Mais oui, bien sûr, que les LR, par exemple, font campagne contre. Et les forces contre, opposées à Emmanuel Macron, pourraient s'agréger à cette occasion.
On attend une prise de parole avant ce troisième Premier ministre, ou pas du tout ? Est-ce que politiquement c'est stratégique ou pas du tout ?
Alors, le communiqué de ce soir laisse entendre qu'il ne prendra pas la parole, sinon il l'aurait éventuellement annoncé. Et donc là, on est sur une nomination dans les prochains jours, peut-être de la même manière avec un communiqué.
Et la raison pour laquelle la parole du président pour l'instant est internationale, elle ne veut pas être nationale, est-ce que c'est l'une des raisons ou pas ?
En tout cas, il sait qu'il doit se protéger très vite, il sait qu'il y a le mouvement de blocage du 10, la grève du 18, donc le Premier ministre dans les prochains jours, c'est aussi une manière de mettre quelqu'un d'autre devant les Français.
Merci beaucoup Maxence Lambrecq, merci Stéphane Dubsec, merci à tous.
À bientôt.
Allez, c'est la pub.